enfant, allez-vous grandir dans un monde sans oiseaux? Y aura-t-il des grillons là où vous êtes? Y aura-t-il des astères? Des palourdes au minimum? Peut-être pas des palourdes. Nous savons qu'il y aura des vagues. Pas besoin de beaucoup de vie pour celles-là. Une brise, une tempête, un cyclone, des ondulations aussi, des pierres. Les pierres sont une consolation. Il y aura des couchers de soleil, tant qu'il y aura de la poussière, il y aura de la poussière. Enfant, allez-vous grandir dans un monde sans chansons, sans pain, sans mousse? Passerez-vous votre vie dans une grotte scellée avec un conduit d'oxygène jusqu'à ce qu'il y ait une panne de courant? Vos yeux s'éteindront-ils comme les yeux blancs des poissons sans soleil? Et là-dedans, quel vœu ferez-vous? Enfant, allez-vous grandir dans un monde sans glace, sans souris, sans lichen? Enfant, allez-vous grandir? C'est un poème tardif de Margaret Atwood, traduit de l'anglais par Christine Evin et Bruno Doucet. Un poème qui commence sur l'absence des oiseaux, et j'arrête pas d'y penser.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, c'est le chant des oiseaux. Régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, ses livres d'anticipation, comme La Servante écarlate ou sa trilogie du Dernier Homme, ont fait d'elle l'une des plus grandes écrivaines contemporaines, mais on mesure rarement l'étendue de son œuvre romanesque, critique, poétique. Elle vient de faire paraître en France deux recueils de poèmes, Les Intardifs, les autres de jeunesse. Bonjour, Margaret Atwood.
Et bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Au fond, que nous disent les oiseaux?
Qu'imagine-t-on que nous racontent les oiseaux? On n'en sait rien, vraiment, sauf quand ils nous disent « éloigne-toi de mon nid ». Là, c'est clair. Tant qu'il y a des oiseaux qui volent dans notre atmosphère, on sait qu'il y a assez d'oxygène. Quand on voit les oiseaux disparaître d'une région, c'est mauvais signe pour les humains.
Se pourrait-il que ce que nous disent les oiseaux, c'est aussi la possibilité de leur extinction, comme vous semblez l'envisager dans ce poème que je viens de lire et qui s'appelle « Ô enfant ».
Oui, comme vous le savez, je suis un membre très actif de BirdLife International, une ONG de protection de la nature, qui tient une liste rouge des oiseaux menacés d'extinction et une liste des espèces disparues. On traite plutôt mal les oiseaux sur la planète.
Alors imaginons ensemble à quoi ressemblerait un monde sans oiseaux, Margaret Atwood.
Ce serait un monde de désolation. Nous sommes habitués aux oiseaux, ils symbolisent l'espérance depuis la nuit des temps. Et on leur a toujours envié deux choses. Leurs ailes et leurs chants.
Dans quelle mesure imaginer le pire? Ce que vous avez souvent fait en tant qu'écrivain, c'est peut-être dans l'espoir d'empêcher qu'ils se produisent.
Le pire serait un monde sans humains. Aussi longtemps qu'il y aura quelqu'un pour écrire, il y a de l'espoir.
Et est-ce que ça marche?
C'est pas une baguette magique, soyons réalistes. Mais pourquoi écrit-on des romans dystopiques comme La Servante écarlate ou la trilogie Madadam? Oui, c'est pour suggérer les voies à ne peut-être pas suivre.
C'est intéressant parce qu'effectivement, au milieu des années 80, quand vous publiez La Servante écarlate, vous parlez déjà d'une humanité à la merci de la pollution qu'elle génère. Quand vous pensez à l'état de la planète aujourd'hui, en quoi diriez-vous que l'écrivain, c'est parfois un prophète?
Je ne dirais pas que les écrivains sont des prophètes au sens premier du terme. D'abord, il n'y a pas qu'un seul futur, il existe une infinité de futurs possibles. Et celui qu'on se fabrique dépendra de ce qu'on fait maintenant. Mais l'écrivain observe les grandes tendances, il regarde les événements du présent, les projette dans l'avenir et extrapole à partir de là.
Margaret Atwood, vous avez écrit de nombreuses dystopies, effectivement envisagé des scénarios catastrophes. Et si le rôle de l'écrivain aujourd'hui, c'était peut-être d'imaginer le contraire, à savoir un monde qui soit à la fois désirable et réalisable?
Oui, c'est l'idée. Voyons si l'on peut imaginer des moyens réalistes d'améliorer notre façon de vivre face à la catastrophe climatique. Quel type de construction serait préférable pour nos habitations? Quelle sorte de vêtements? D'où faire venir notre nourriture? Toutes ces choses du quotidien. Et les idées ne manquent pas. Il s'agit donc de mettre ensemble des gens et voir s'ils arrivent à bâtir une sorte de maquette en Lego d'un monde plus vivable. possible. La difficulté, c'est d'écrire ça sous forme romanesque. Les romans d'anticipation étaient très populaires au XIXe siècle parce qu'on croyait au progrès et en un monde meilleur sur le plan matériel essentiellement, mais aussi sur le plan social quelquefois. La condition féminine était un gros sujet et les femmes avaient toujours un meilleur sort dans ces utopies, un meilleur sort et moins de vêtements, moins de froufrou. Puis est arrivé le XXe siècle et on a essayé de mettre en application certaines de ces utopies et ça n'a pas très bien marché. Appliquées à grande échelle, elles ont vite tourné à la dystopie. Vous voyez à quoi je fais allusion.
Oui. Dans ce nouveau monde, dans cet autre monde, quelle place aurait la forêt, je me suis demandé.
Les forêts occuperaient une place majeure parce qu'elles génèrent beaucoup d'oxygène. Le gros problème qui nous attend, si on continue de détruire les océans et les forêts, c'est qu'on ne pourra plus respirer.
Mais quel lieu est-ce que c'est pour vous la forêt, personnellement ? Après tout, c'est inscrit dans votre nom.
Oui, j'ai grandi dans les forêts boréales du Canada. Elles ont donc un rôle particulier pour moi. Mais les forêts vraiment importantes, bon, elles sont toutes importantes, mais on a ravagé les forêts tropicales et subtropicales. Si on pouvait les régénérer, elles dégageraient d'énormes quantités d'oxygène et absorberaient beaucoup de CO2.
C'est passionnant que vous ayez grandi dans la forêt, Margaret Atwood. Qu'est-ce que vous avez appris du monde qui est le nôtre au contact de la forêt ?
Ce n'était pas seulement la forêt, mais ce qu'il y avait dans la forêt. Ce qu'on apprend avec un père biologiste, c'est à quel point tout est relié dans un écosystème forestier. On apprend à connaître les arbres, chaque espèce d'arbre, les insectes qui les dévorent, les champignons et les rhizomes qui les nourrissent. On apprend surtout à reconnaître les champignons vénéneux, c'est important.
C'est une question à vous entendre de vie ou de mort, mais surtout en quoi cette enfance, en partie passée dans les bois, a-t-elle fait de vous la romancière que vous êtes devenue par la suite ?
En partie parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire dans un endroit sans électricité, pas d'eau courante, juste une pompe, pas de télévision, pas d'école, ni de théâtre, à peine la radio. Alors quand il pleuvait, on passait le temps à lire, écrire ou dessiner. Cette enfance a fait de moi une lectrice précoce. J'ai écrit et dessiné très tôt.
C'est peut-être pas innocent alors que vous vous appeliez Margaret Atwood.
C'est drôle, oui.
Vous avez écrit des poèmes bien avant d'écrire des romans, Margaret. Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez poète ?
C'est un peu un trompe-l'œil de dire que j'ai commencé par la poésie. J'ai juste dû attendre plus longtemps pour que mes romans soient publiés. J'écrivais déjà quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes, des romans et des essais. J'avais 16, 17 ans. Et comme on publiait des gazettes, on avait des petites imprimeries à droite à gauche dans la cave de quelqu'un. Et c'est comme ça que mes poèmes sont parus en premier.
Pour autant, c'est intéressant. Qu'est-ce que vos romans doivent à vos poèmes ? Dans quelle mesure vos romans viennent-ils puiser un peu de leur essence dans les poèmes ?
C'est vrai pour certains de mes romans. J'ai d'abord abordé le sujet dans un poème, et des années plus tard, peut-être des décennies, j'ai repris la même histoire ou le même thème dans un roman. C'est particulièrement vrai pour mon roman Alias Grace.
Captive, en français.
Oui. Ça a commencé par un poème que j'avais écrit dans les années 60, puis j'ai écrit une pièce pour la télévision avec le même personnage au début des années 70, et ensuite un roman au début des années 90, à des années de distance, mais la même histoire.
Mais à votre avis, que rend possible le poème ? Quel est son pouvoir ?
Il existe différentes sortes de poésie. Il y a le poème épique, ça c'est une chose, ça s'apparente davantage au roman. Par exemple, l'Iliade, un très long texte, se lit comme un roman. C'est aussi le cas de l'Odyssée. Vous avez ce genre de poésie. Ensuite, vous avez les poèmes narratifs, plus courts. Et puis, il y a les poèmes lyriques, la poésie dont nous parlons. Et là, c'est une question de concentration, de dosage, un peu comme en cuisine. Si on met une cuillère à café de vanille dans une préparation, juste un soupçon, ça donne un arôme. Si on verse toute la bouteille, c'est trop. Ça sera très concentré. Dans le poème lyrique, tout est question de longueur d'onde. Dans un roman, un texte long, le rythme et les motifs se développent comme un tsunami. Ça vient de loin. Par exemple, vous évoquez quelque chose en page 15, vous reprenez ce motif en page 68 et de nouveau à la page 172. Donc, la longueur d'onde est plus étendue, alors que dans le poème, l'unité est la syllabe. Ça donne une forme très condensée. Chaque syllabe va faire écho à chacune des autres syllabes.
Il se trouve que vos poèmes de jeunesse sont placés sous le signe de Circé, la magicienne rencontrée par Ulysse dans son Odyssée. Quelle relecture est-ce que vous faites du mythe de Circé ?
Oui, j'ai voulu donner une voix à ce personnage homérique et j'ai vu que quelqu'un lui avait consacré tout un roman dont elle est la narratrice. C'est un personnage de jeune femme intéressant, très complexe. Alors j'ai composé une suite de poèmes pour sa voix.
Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, sa voix, justement ?
Bon, il faut revenir à l'histoire. Circé vit sur son île, où elle voit régulièrement débarquer des hommes qui se conduisent très mal. Alors elle les transforme en porcs et autres animaux pour les punir. Et puis débarque Ulysse avec sa fleur magique. Un détail révélateur à propos d'Ulysse, il a deux divinités protectrices, Athéna et Hermès. Or, Hermès est le dieu des menteurs, farceurs, arnaqueurs, voleurs, escrocs, voyageurs, le dieu des tromperies en tout genre. Ça nous dit qu'Ulysse est quelqu'un de rusé, de dissimulateur. C'est d'ailleurs la réputation qu'il avait, même chez les Grecs de l'Antiquité. Alors arrive ce personnage fourbe, sournois, qui lui aussi est un maître des métamorphoses et des mensonges, comme Circé. Que va-t-il se passer quand ces deux-là se rencontrent ? C'est ce que racontent mes poèmes. Et puis, quelque temps après, il repart sur son bateau. Que ressent-elle à ce moment-là ?
Mais diriez-vous que Circé est une figure de résistance aussi ?
Pour moi, en tant que romancière, les personnages de ces récits ne sont pas allégoriques, ils ne représentent pas une seule chose, pas plus que vous et moi ne sommes d'un seul bloc. Personne dans la vraie vie n'est une figure allégorique, même si quelques individus sont érigés en figures allégoriques par les médias et autres. Mais ce n'est pas la réalité, ils sont plus complexes. Et ce qui m'intéresse, c'est la complexité. C'est ce que représente ce personnage.
À quel moment de votre vie, Margaret Atwood, avez-vous fait l'expérience du patriarcat ?
Resituons-nous dans le temps. Je viens d'écrire sur Simone de Beauvoir. Elle est née la même année que ma mère, mais a grandi dans un milieu très différent. Elle a eu droit à une triple dose de patriarcat. Étant née dans une famille française bourgeoise et catholique au début du XXe siècle, tandis que ma mère vivait au même moment en Nouvelle-Écosse, une province rurale où elle montait à cheval et faisait du patinage de vitesse. Vous voyez le patinage en ligne avec ses longues lames et les bras qui font comme ça. Imaginez Simone de Beauvoir sur des patins à glace filant à toute vitesse. C'était deux mondes très différents. Bien sûr, il existait chez nous des formes de domination masculine qui demeurent, mais je ne les subissais pas vraiment personnellement. Mes parents étaient plutôt égalitaires. Et puis, on ne se balade pas en forêt dans une robe rose à volant. D'abord, par peur de l'abîmer, et deuxièmement, à cause des moustiques. On ne s'habille pas comme ça, foin de la coquetterie. Ça ne m'a pas empêché de dessiner des robes roses avec des fanfreluches et des princesses avec une couronne quand j'avais 6 ans. Mais oui, c'était une expérience du monde très particulière.
Alors, ce que je trouve intéressant dans votre écriture, et je pense évidemment à certains de vos livres comme Captive, dont vous avez parlé, La Servante Écarlate ou L'Odyssée de Pénélope, c'est ce que vous faites du corps des femmes. Le corps des femmes qui est un enjeu central de la domination. Je me suis demandé qu'est-ce qui fait pour vous la liberté d'un corps, Margaret Atwood?
Oh boy.
Very hotly discussed. C'est un sujet brûlant actuellement. Dans une démocratie qui respecte la liberté individuelle, et ce n'est pas le cas de toutes les démocraties, ni de toutes les cultures, le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est que ma liberté s'arrête dès lors que je nuis à autrui. C'est souvent l'aune de mesure dans une démocratie. Si on peut faire tout ce qu'on veut, je pourrais m'introduire chez vous et prendre toute l'argenterie juste parce que j'en ai envie. C'est pour ça qu'on a des lois. Toutes les cultures se sont dotées de lois sous des formes diverses. Parce que sinon, ce serait l'anarchie. Disons le chaos. Et le chaos enfante des seigneurs de guerre.
Là, c'est à la romancière que je m'adresse. Dans quelle mesure créer un personnage, c'est peut-être d'abord lui donner un corps, Margaret?
Oui, on a tous un corps. Oui, j'ai écrit un roman sur Pénélope, L'Odyssée de Pénélope, où elle s'adresse à nous depuis l'au-delà. Alors on pourrait penser que sa voix est désincarnée, mais nous existons dans un corps. C'est ce qui me permet de parler avec vous en ce moment. Alors bien sûr, il faut caractériser chaque personnage dans un livre, les faire exister dans un lieu physique et dans un corps physique. Mais les écrivains insistent plus ou moins sur différents aspects de la condition humaine. Dashiell Hammett, l'auteur du Faucon Maltais. Vous remarquerez que dans son livre, personne ne mange. Ça boit beaucoup, ils boivent et ils fument, mais jamais de repas. Alors que le commissaire Maigret, lui, se restaure souvent, et on nous dit où il mange et ce qu'il mange, et ce que Madame Maigret a préparé pour le dîner. On sait aussi dans quel bistrot il s'attable et ce qu'il y commande. Ça vous donne faim à force. Il bouffe tout le temps, contrairement à d'autres personnages de romans. Dickens évoque volontiers la nourriture, mais dans la plupart des thrillers, surtout au cinéma, il ne mange rien. Il court partout, il tire sur des gens, il saute des gratte-ciels, et jamais il ne s'arrête pour casser la croûte.
On va reparler, évidemment, de corps, de personnages, de mémoire et de beauté, juste après La beauté incarnée, The Circle Game, de Joni Mitchell, votre compatriote canadienne, en 1966, qui est l'année où vous publiez un recueil de poèmes très important qui porte le même titre, peut-être l'un des plus beaux hasards de l'art canadien. Vous êtes sur France Inter, avec Margaret Atwood, vous écoutez Boomerang. Tout simplement.
Yesterday, a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful, when the sky was full of circle.
when you're older, must appease him. And promises of someday make his dreams. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in a circle again. In the circle game.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Je vais vous dire un secret, on est quelque part entre Madame Mime et Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Le sourire éclatant, le cheveu toison blanche, le regard poudre de perlimpinpin, un drôle d'oiseau. La romancière Margaret Atwood, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour parler de littérature et d'une vocation d'écrivain. S'intéressant à ce sujet, vous dites que dans les années 50 au Canada, devenir écrivain, Margaret, ça n'était pas un métier qui intéressait grand monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Yes, exactly. It was exactly true.
Mais c'est ça, dans les années 50, quand j'étais adolescente et auteur en herbe, on ne me prenait pas au sérieux. Ce n'était pas considéré comme un vrai métier ou une vocation. C'était une activité très bizarre à laquelle se livraient une poignée d'originaux pendant leur temps libre. L'un des enjeux pour notre génération était d'en faire un métier.
Et aujourd'hui, dans quelle mesure le métier d'écrire est devenu désirable, Margaret ?
Il est devenu beaucoup plus désirable. Devant le succès de certains auteurs, d'autres se disent « pourquoi pas moi ?»
Mais quelle place avaient les livres dans votre famille quand vous étiez petite ?
Une place très importante. Parce que, comme je vous le disais, il n'y avait rien d'autre pour s'occuper. Mais c'est vrai qu'en forêt, le stock de livres était limité, on ne pouvait pas se réapprovisionner. Il n'y avait pas de bibliothèque. On se contentait de ce qu'il y avait. On ne m'a jamais interdit de lire un livre. Alors il y avait des tas de livres qui n'étaient pas pour les enfants, mais je les lisais quand même. Des ouvrages scientifiques, des manuels d'histoire, des romans policiers. Je lisais ce qui me tombait sous la main.
Je vous parle d'enfance, Margaret Atwood, parce que l'enfance perdue, l'enfance oubliée, c'est l'un des grands thèmes qui traversent vos livres. Je pense par exemple à Faire surface ou Œil de chat. Et je me demande quelle période de la vie est-ce que c'est, l'enfance, pour une romancière comme vous ? Et qu'est-ce qui se joue dans l'enfance ?
Ce thème a occupé beaucoup d'écrivains. On pense tout de suite à Proust, bien sûr. C'est le sujet de toute son œuvre. C'est parce que notre enfance nous façonne. C'est l'époque des impressions premières. Donc, tout ce qui vous arrive entre l'âge de 0 et 10 ans, je pense à tous les enfants de cet âge en ce moment. Pour eux, la pandémie va constituer une expérience fondamentale dans leur existence. Je suis née en 1939. J'ai vécu les premières années de ma vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que certaines choses me rendent nerveuse.
C'est là où votre œuvre est passionnante, quand elle ne cesse d'explorer la mémoire, justement, la manière dont le passé, inconsciemment même, nous travaille. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant pour vous dans le fonctionnement de la mémoire, Margaret ?
La question a toujours passionné les neurologues. Est-ce qu'on garde vraiment des souvenirs intacts, stockés dans notre cerveau, comme dans un petit placard ? Eh bien non, pas exactement. On peut activer certaines zones en introduisant des électrodes dans le cerveau. Mais qu'est-ce qu'on active exactement ? Le souvenir primaire ? Ou notre recréation de ce souvenir ? Proust avait raison. Le goût et l'odorat nous ramènent au souvenir originel. La Madeleine, c'est la référence du souvenir instantané activé par une saveur et une odeur. En revanche, on sait que les images visuelles sont trompeuses.
Vous êtes pour moi une grande romancière du temps. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'à travers vos derniers poèmes, le temps est partout. Et je pense à ce poème qui s'appelle « Ligne plate » et que j'aimerais lire aux auditeurs et aux auditrices de Boomerang. Les choses s'usent, les doigts aussi. Le noueux gagne du terrain. Tes mains se recroquevillent dans leur mitaine. Oubliez les baguettes chinoises et les boutons. Les pieds ont leur propre ordre du jour. Ils méprisent tes goûts en matière de chaussures et ignorent tes itinéraires, tes cartes. Les oreilles sont superflues. À quoi servent-ils ces volets roses d'extraterrestres, champignons du crâne? Le corps, autrefois ton complice, est maintenant ton piège. Le lever du soleil te fait grimacer, trop lumineux, trop flamant rose. Après une vie d'enchevêtrement, de collets noués et de dentelles, de tornades violettes dans l'espace mental, avec leur cœur haletant et leur décembre, tu espères ardemment la fin des labyrinthes. Et tu pries pour un rivage blanc, un océan avec son horizon. Non, pas la béatitude, mais une ligne plate vers laquelle tu te diriges. Plus de sifflement ni de bousculade, pas de récif, pas de profondeur, pas de gravier raclant la gorge. Ça ressemble à ceci. Et le poème se termine, Margaret Atwood, par une ligne. Cette ligne, qu'est-ce qu'elle dessine? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Vous le savez bien. La ligne plate sur un moniteur d'hôpital signifie que vous êtes mort. Mais une ligne plate, c'est aussi l'horizon. Tout ce qui est horizontal est une ligne plate. Et une ligne plate dans un tableau peut évoquer le calme absolu ou quelque chose de sinistre. Est-ce que c'est sinistre d'être très calme?
Est-ce que la fin vous fait peur?
Non, plus à mon âge. Ça, c'est pour les jeunes. Vous ne croyez pas? Bien sûr, vous êtes jeune, vous ne le savez pas encore.
Oh, je suis de moins en moins jeune, hein, Margaret.
De mon point de vue, vous êtes très, très jeune.
Vous voyez, tout est une question de point de vue. Dans ce poème, vous parlez du vieillissement...
Vous n'êtes pas vieux.
Dans ce poème, vous parlez du vieillissement des corps, vieillissement auquel personne n'échappe. Votre corps, quel outil, diriez-vous, que c'est? Pour la romancière que vous êtes.
Quelle question. D'accord, alors voici des mains. Elles sont marquées. Je m'en sers pour le clavier. Quoique je cherche une application qui tape le texte sous la dictée, ça existe aujourd'hui. Ce dont se plaignent les romanciers à propos du corps comme outil, c'est la nuque. Ils sont toujours penchés, alors le cou, le dos, plus le syndrome du canal carpien. Alors c'est mon conseil aux jeunes écrivains. On me demande souvent quel conseil je donnerais aux jeunes écrivains. On s'attend à ce que je révèle une recette d'écriture, mais je leur dis, faites des exercices pour les mains et le dos, et commencez tôt. Vous vous en féliciterez plus tard.
Margaret Atwood, c'est ma dernière question, et c'est à la poétesse que je la pose. Que devient le corps une fois que la vie l'a quitté, à votre avis?
Aucune idée. Mais bon, j'étudie les moyens peu énergivores d'éliminer mon corps. Il existe une nouvelle technique, ça s'appelle Recompose, recompose. On vous met dans une sorte de capsule, une cosse, et au bout de 45 jours, vous ressortez transformé en terreau fertile qu'on peut saupoudrer au pied des rosiers. Si je peux arranger ça, c'est ce que je ferai.
Alors vous deviendrez un arbre, vous deviendrez une forêt.
Oui, je ne veux pas devenir un diamant, je ne veux pas qu'on m'envoie dans l'espace à bord d'une fusée, mais j'aime assez l'idée de me transformer en fertilisant.
Merci infiniment, Margaret Atwood, quelle belle image. Pour terminer cet entretien, merci d'être venue faire un tour dans Boomerang et merci à votre interprète. Ce matin, Eve Dare. Je rappelle que Circé et autres poèmes de jeunesse ainsi que poèmes tardifs sont publiés dans la collection Pavillon Poche chez Robert Laffont. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
That was wonderful, thank you.
comme la fin du monde, l'ONI sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, l'instant M, ça va Sonia ?
Oui, ça va Augustin. Bah, à demain.